watching. Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Série.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Célia Dufour, Philippe Mercher et Eric Carrère. Réalisation Émilie Valat. Autour de moi ce soir en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, il y a Mathilde Wagman, Iris Bray et Lucille Como pour que nous puissions parler ensemble de Il Miracolo de Niccolò Ammanniti, True Detective Nick Pizzolatto saison 3, Sex Education de Laurie Nunn et puis Mon coup de cœur qui saigne à propos d'Engrenage saison 7. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le cycle Sacha Guitry à voir du 19 février au 20 mars à la Cinémathèque de Toulouse. Et nous ouvrons cette émission avec une série italienne, une fois n'est pas coutume. Il s'agit d'Il Miracolo, imaginé et en partie réalisé par l'écrivain italien Niccolò Ammanniti. Dans l'Italie contemporaine ou presque, un référendum va avoir lieu pour déterminer si l'Italie doit ou non rester dans l'Union européenne. Les sondages donnent le non en tête, ce qui fragilise évidemment le Premier ministre en place. Au même moment, la police fait une bien étrange découverte dans la maison d'un parrain de la mafia calabraise, une petite statuette de la Vierge, tout simple, en plastique, mais qui pleure des larmes de sang.
Ci fosse qualcosa di straordinario. Al limite della farsa. Ma che non ha niente a che fare con la suggestione, ma contro ogni legge naturale. Un miracolo vero, insomma. Senza una spiegazione logica.
Presidente.
Generale.
Vi faccio vedere.
È sangue umano. Non è infetto, non ci sono né virus né batteri.
Le leggi della fisica per questa statua non funzionano.
Non capisco.
Io lo conosco l'inferno. Io sono uscito dalle fiamme per te. Per dirti quello che Dio vuole da te.
Il Miracolo. Alors qu'on peut voir, est-ce qu'on peut le voir encore sur arte.fr? Si, oui, jusqu'au, enfin quelques jours encore, jusqu'au 23 février, donc en replay, mais aussi un coffret DVD et Blu-ray et commercialisé de cette saison 1, peut-être, on va en parler, d'Il Miracolo, et c'est Lucille Como qui commence à nous parler de cette série.
Oui, alors j'ai eu très très peur au départ de cet objet-là. D'abord parce qu'on n'a pas été très chanceux avec les séries européennes d'Arte ces derniers temps. On a parlé de plusieurs récemment. Et aussi parce que le résumé de la série, tous les éléments que vous avez cités en premier lieu, à la fois la fable politique, cette espèce de miracle, le contexte mafieux, je voyais pas trop comment ça pouvait fonctionner ensemble. En plus, j'avais lu qu'on comparait beaucoup la série à The Young Pope de Sorrentino, donc j'avais trouvé que c'était vraiment un offre. Je trouvais ça très laid et vraiment j'avais vraiment très peur et j'ai été assez sidérée même je crois par la série, assez impressionnée. Il y a beaucoup de choses qui se vérifient, il y a une forme de lourdeur dans l'articulation des thématiques, dans la mise en scène aussi, dans l'utilisation de la musique qui écrase un peu le tout, mais néanmoins je suis très séduite par cette série. Il y a peut-être une image qui m'a emportée d'emblée, c'est cette fameuse statue de la Vierge qui est en fait l'image qui, je pense, détermine l'attention qu'on peut avoir pour cette série et l'affection qu'on peut avoir ou non. Donc quand il retrouve cette Vierge, elle est installée dans une piscine, puisque de fait ça devient un secret d'État, dans une piscine entièrement désaffectée, et l'image juste purement plastique de cette statuette, qui est une statuette un peu cheap, quoi, en plastique ou en stuc, avec les larmes de sang qui forment une sorte de cœur autour de sa figure, on ne voit plus que les yeux et ça fait tout rouge autour. Je trouve l'image
juste
saisissante.
Oui,
c'est vrai qu'à la radio c'est pas
ça marche assez bien.
Donc voilà, cette image-là de cette vaste piscine totalement ouverte, recouverte de films plastiques, la petite statue au milieu, m'a emportée et je pense a beaucoup déterminé la façon dont j'ai vu ensuite la série. Je trouve qu'elle fonctionne assez bien, même si elle est très très pleine. Il y a plein de pôles, vous les avez cités en le résumant, donc il y a cette histoire politique qui finalement passe au second plan, et tant mieux, on en reparlera peut-être de référendum avec le Premier ministre. Il y a sa femme qui prend une importance de plus en plus grande et dont je trouve que c'est un personnage féminin très intéressant. Il y a un prêtre qui est prêtre de débauché. Tous ces personnages fonctionnent comme des types, mais leur relation au miracle, elle est extrêmement subtile. Ils sont tous partagés d'une manière ou d'une autre entre une sorte de foi absolue ou en tout cas d'adhésion et le doute, et chacun partage ces deux pôles de manière à la fois mobile, et c'est pour ça que ça fonctionne, que c'est assez dynamique, et assez subtil. Et je pense que le spectateur est un petit peu comme les personnages, c'est-à-dire dans un rapport d'acceptation ou non du miracle. Moi, en l'occurrence, comme j'ai accepté l'arbitraire total de ce qu'on nous donne à voir, j'étais totalement prise, je me suis jamais posé de question de la vraisemblance, je m'étonnais moi-même de pas me la poser.
Ça m'étonne de vous. En effet, Lucille Gaumont, fallait-il que vous soyez emportée? Est-ce votre cas, Mathilde Wagman, à regarder Il Miracolo?
Alors, c'est amusant, parce que moi aussi, il y a eu de la sidération, mais alors, pas du tout dans le bon sens. Moi, j'ai été sidérée par le vide abyssal de cette série, enfin, dont, au fond, je n'ai pas compris, je crois même, l'ambition. C'est-à-dire qu'au départ, vous l'avez dit, il y a donc le mystère. Hein, pendant le premier épisode, il y a un mystère autour de la découverte de cette statuette malgré tout, dont on pense au départ que ça va faire l'objet d'une enquête. Enfin, une enquête commence à s'établir sur, première question, s'agit-il réellement d'un miracle? Un petit groupe de scientifiques militaires est constitué pour enquêter là-dessus. Et très vite, il est établi, c'est un vrai miracle, ou en tout cas, la nature du phénomène est étrange, puisqu'il s'agit bien de sang humain qui coule des joues de cette statuette. Bon, alors partant de là, on imagine qu'on va avoir affaire en effet à une fable politique et que cette étrange découverte va créer un bouleversement d'ordre politique, d'autant que, vous l'avez rappelé à Arnaud, il y a ce contexte du référendum. L'Italie va-t-elle ou non sortir de l'Union européenne? Or, rien ne se passe à cet égard, hein, c'est-à-dire que la dimension politique est très vite évacuée. Et donc, de quoi parle-t-on finalement? Quel est l'objet de la série? Eh bien, la manière dont cette découverte, l'existence de cette statuette, va bouleverser l'existence des personnages. Mmh. Bon, mais c'est tellement deux choses détachées l'une de l'autre, enfin, que c'est... Enfin, moi, personnellement, je n'avais... Mais ça ne m'a absolument pas intéressé la manière dont la vie de ces personnages est bouleversée, parce que ça n'a aucun lien avec ce soi-disant miracle. Bon, par exemple, donc il y a une galerie de personnages principaux. Le Premier ministre a des problèmes de couple, des difficultés avec sa femme. Soit, mais étant donné que ça n'a aucun rapport avec la statuette, vous dites, Lucille, tous les personnages ont une position par rapport au miracle. C'est pas vrai. Par exemple, la femme du ministre, elle a aucune position sur le miracle. Enfin, on sent bien qu'elle est sceptique à l'égard de la religion en général, mais qu'importe le point de départ, ce qui met en mouvement l'intrigue, elle n'a pas d'effet sur ce que, au fond, d'effet réel sur ce que vivent les personnages. Il y a un personnage de prêtre qui visiblement a une forme d'addiction à la fois au jeu et au sexe. Bon. Qui va lui aussi être mis en contact avec cette Vierge et qui va donc d'une certaine manière retrouver sa foi, mais là encore, so what? Enfin,
et encore,
voilà.
Oui, c'est discutable.
Et ainsi de suite, on pourrait égrener comme ça. Le personnage peut-être le plus intéressant à mon sens est celui de l'une des chercheuses qui enquête sur la statuette au début. Il se trouve qu'elle a une mère, elle est interprétée par Alba Rohrwacher, qui est une actrice magnifique et à laquelle moi je me suis accrochée parce que c'était vraiment la seule chose que j'ai aimée dans la série. Elle a une mère qui est malade et donc elle lui administre dès les premiers épisodes un petit peu du sang donc de cette statuette, et on pense que peut-être il va se passer quelque chose, et en fait il se passe quasiment rien, ou en tout cas ça a très peu de conséquences. Enfin voilà, moi je n'ai pas compris vraiment le sens et la portée de cette série, et j'ai vécu la vision pour le coup comme une vraie pénitence, quoi.
C'est bien. Iris Bray, à présent, qu'on n'a pas encore entendu sur Il Miracolo.
Oui, le miracle n'a pas opéré non plus pour moi. Je trouve que c'est, pour reprendre un peu les mots de Lucie, oui, je pense que c'est une série très lourde, grandiloquente, grandiloquente. Et quand on parle de miracle, il faut quand même qu'on soit un petit peu transporté en tant que spectateur et spectatrice dans une histoire ou dans l'Italie ou dans cette crise que cette statuette provoque pour cette notion de foi, hein, la foi en l'Europe, en la famille, en la Vierge Marie. Enfin, tout ça pour moi me paraît très daté. J'ai l'impression de voir une série des années 2000 où finalement c'est assez bien ficelé. On voit comment les destins vont se recouper au fil des épisodes jusqu'à l'épisode final. Mais pour moi, il n'y a pas de chair, en fait. Ce sang de la Vierge n'est jamais incarné et ne s'incarne pas à travers les personnages. Et du coup, ça me laisse complètement de marbre. Et justement, je trouve que le style à la Sorrentino écrase encore plus tout ça. Et vraiment, j'ai l'impression de voir quelque chose du passé qui me transporte absolument pas.
Alors, comment reprendre après ça? Je voudrais quand même donner un peu des points positifs. Alors, je vais commencer par là, peut-être. Mais non, mais je sais que Lucille, vous en avez plein, on a compris. Et vous allez reprendre la parole. Mais moi, il y a un personnage, alors que je sauve, qui est le général dont j'oublie le nom, Mota, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un général de sorte de police secrète de l'armée, qui a récupéré cette statuette, donc qui la cache dans cette piscine désaffectée, qui devient un camp de vie pour quelques militaires triés sur le volet. Pour le coup, ils seront eux plus directement affectés, on va dire, par cette proximité 24 heures sur 24 avec cette statuette de la Vierge. Et je pense qu'il est, voilà, il a un peu plus de complexité quand même que les autres personnages, y compris jusqu'à la fin. Mais c'est surtout la série d'un alors petit malin, grand malin, ça dépend comment on peut le dire, Nicolas Amaniti, qui est donc un écrivain extrêmement populaire en Italie, dont les livres se vendent à de très nombreux exemplaires. Et il y a une science qui, moi, m'intéresse pas beaucoup de la couture, des récits de vie. Enfin, tout ça retombe évidemment sur ses pattes à la fin des 8 épisodes, c'est bien ça, 8. D'une façon tellement, on dirait du Shyamalan transalpin, quoi. Il y a un truc, voilà, vous avez pas vu, mais je vais tout coudre ensemble. Et en fait, on a tellement vu depuis très très longtemps arriver la façon dont les histoires s'entremêlent. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même, ça pour le coup, extrêmement lourd et un peu pénible. Mais voilà, j'ai gardé espoir dans ce personnage qui est quand même assez présent, du général, ce qui fait évidemment rigoler Lucille Como, mais parce que voilà, vous avez une passion pour certains des personnages de
non,
cette série, faut le dire.
Non, en plus, je n'en isole pas, en effet. Moi, je vois en tout cas en quoi chaque possibilité fonctionne comme des leurres. La fable politique, en effet, n'aboutit pas. La question de l'enquête n'aboutit pas. C'est peut-être
ça
qui m'a
plu. En plus, c'est bien ça qui est le pire. Mais,
par exemple, en effet...
Pchit. Le référendum, ça aboutit, on ne dira pas comment, l'enquête, elle aboutit.
Non, mais par exemple, sur la question de l'Italie, de la représentation de l'Italie contemporaine, en effet, la fable politique, c'est un leurre, ça très très vite,
c'est
en arrière-plan.
C'est complètement hors sol. Hein.
Oui, c'est très vite en arrière-plan, mais ça me dérange pas. En l'occurrence, je trouve qu'il y a d'autres choses qui prennent le relais. Par exemple, le fait que, on n'a pas parlé, mais il y a des prologues en début de chaque épisode qui racontent l'histoire, on imagine du coup rétrospective, de l'arrivée de ce miracle, avec deux personnages, donc un père et son fils. Le fils souffre d'un handicap mental, et bon, c'est une sorte d'histoire totalement tragique, vraiment tragédie antique. En fait, ça fonctionne comme l'Ancien Testament du reste de la série, qui serait les évangiles. Quoi.
Mais c'est que en prologue,
c'est une sorte de métaphore. Enfin, oui,
moi,
à chaque fois, c'est.
Ça.
Si, à chaque fois, c'est en prologue.
D'accord.
Et il y a pour le coup une vraie.
Quand on les regarde à la suite,
fin.
On s'en rend pas compte.
Il y a eu vraiment une vraie fin. Moi, j'ai beaucoup aimé le rapport entre ces deux régimes narratifs, et j'y vois aussi une réflexion sur l'Italie, parce que il se trouve que ça se passe dans le sud de l'Italie, et que en Italie, il y a vraiment encore une vraie distinction entre le sud et Rome, et puis le nord de l'Italie. Et dans ce jeu entre l'archaïsme total, l'Ancien Testament, les choses les plus sombres qui peuvent se passer et qui donnent naissance au miracle, et le reste, la politique, les relations de couple, la violence qui s'exerce, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée et qui se dit aussi de l'Italie, par exemple, pour citer cet exemple de la question de la fable politique, qui m'intéresse. Par ailleurs, en fait, la lourdeur, je la vois, mais je la vois tellement assumée que j'y vois une sorte de sens, enfin vraiment une esthétique. Et c'est vrai que c'est pénible parfois, l'utilisation de la musique par exemple m'a beaucoup gênée.
Il y a vraiment choix des musiques.
Voilà, il y a un choix de musique qui part horrible, un petit peu dans tous les sens, la pop, le rock, des gros classiques qui arrivent d'un seul coup. On voit très bien, en effet, il y a un côté petit malin, mais sur le fond, sur les coutures, sur l'efficacité du récit, vraiment ça m'a intéressée. Et même le fait que ça avorte en permanence, que l'enquête ne s'achève pas, je trouve ça très intéressant. Et le dernier épisode, je le trouve saisissant. Vraiment, la scène finale, je la trouve saisissante.
Iris Bray ?
Bah, c'est le contraire de l'avortement, le dénouement. Enfin, on ne va pas divulgâcher, mais...
Non.
Rien. Non, je trouve ça... En fait, c'est une esthétique, malheureusement. Et je trouve que c'est vraiment une esthétique, moi, qui me plaît absolument pas, qui, pour moi, est le contraire du cinéma. Et bon, on est dans une série, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a il veut jouer au grand réalisateur. Ça me dérange. Je trouve qu'on s'éloigne des personnages. Et si on parle justement des relations de couple, je trouve qu'il y a quelque chose de très dérangeant, en fait, qu'on revient hein, vraiment à la Vierge et à la putain tout le temps. C'est vraiment pénible, notamment avec le prêtre qui ne peut voir les femmes que comme ça. Mais aussi ce personnage de femme que vous aimez bien, Lucille Comeau. Moi, je l'aime pas du tout. Enfin, je la trouve complètement désincarnée. Je trouve qu'elle n'apporte rien et j'ai l'impression que on n'est que dans des stéréotypes et des archétypes et qu'à aucun moment on dépasse ça pour aller vers justement la chair, l'humain, les larmes, le sang. Je trouve qu'il y a un côté froid en fait, ça se veut extrêmement puissant, mais pour moi ça me met totalement de marbre.
Oui, puis la relation de couple, on peut l'évoquer aussi entre la jeune scientifique et son ex-petite amie, c'est quand même... On comprend même pas comment on peut écrire ces scènes-là.
Je suis d'accord avec vous. Moi, je
on peut même pas comprendre parce que c'est toujours le même procédé, enfin, le même principe. Alors, elle se retrouve, elle lui demande un service, elle le fait, veux-tu revivre avec moi? Ah ben non, mais je te fous dehors. Enfin, il y a un truc qui, à chaque fois qu'elles se voient, les deux, c'est la même scène. C'est quand même un peu curieux, Mathilde.
Ouais, et de même qu'entre le Premier ministre et sa femme, avec la problématique de...
Je t'aime moi non plus.
Voilà, et en fait, j'ai envie d'aller voir ailleurs, et c'est difficile
mais
de s'occuper
prends-moi
des enfants.
Mais prends-moi dans la cuisine.
J'ai des besoins que tu ne peux pas assouvir.
Absolument, mais je trouve ça intéressant.
Vraiment,
vous ne reconnaissez pas? Vous n'avez peut-être pas vu la même série?
Non, mais franchement, pas du tout. Et il y a une discussion à un moment donné, même sur leurs origines sociales, sur ce que ça a pu décaler dans leur couple. Franchement, elle est intéressante, cette discussion. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de décrire.
Pas du tout intéressant, que les dialogues sont d'une platitude sans fin. Non, mais je trouve ça intéressant, par contre, que vous reveniez sur le prologue, Lucille, parce qu'en effet, moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt tenue, quand même, malgré tout. Mais alors, peut-être il y a quelque chose que j'ai pas compris. Enfin, à vous écouter, vraiment, je me pose la question. Parce que je trouve que ce prologue, au final, ne nous apprend rien, ne nous donne
prépare
aucune signification
deux, hein.
Possible.
Prépare la saison 2, c'est tout.
Ses larmes, alors que... Elle ne fait que nous apprendre la manière dont le mafieux a été en position.
Le dernier épisode qui vous saisit, Lucille, est là
pour
préparer la saison 2. C'est le côté petit
malin.
Non,
alors, on parlait du prologue. Moi, je trouve que les prologues...
L'épisode final que vous trouvez saisissant.
Oui, mais alors, le rapport du prologue au reste, moi, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Mathilde. Je trouve que ça donne une vraie grille de lecture qui est pour le coup presque d'exégèse, parce que c'est une sorte d'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le sacrifice et sur ce que potentiellement le sacrifice d'un enfant.
Mais la résolution de ce sacrifice n'explique en rien, ne donne aucun sens possible.
C'est l'exégèse.
Lucille, vous êtes trop intelligente pour avoir regardé cette série, Il Miracolo. Nous, avec une intelligence un peu moindre, on a vu que c'était pas grand-chose. mais vous, comme vous l'avez aimé, on va recommander à nos éditrices auditeurs d'aller voir sur Arte TV, d'aller peut-être se procurer le coffret DVD ou Blu-ray pour bénéficier de toutes les subtilités d'images apportées par Niccolo Amaniti. À suivre dans la dispute, True Detective, saison 3, Sex Education, et un coup de cœur qui saigne.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux séries, ce soir nous sommes en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour parler à présent de la saison 3 de True Detective. À son apparition il y a 5 ans maintenant, True Detective avait été pour beaucoup de téléspectateurs un éblouissement qui se perdait peut-être un peu en cours de route, surtout si on a adhéré ou pas au final un peu fantastique de cette première saison. Mais il y avait quand même déjà deux atouts majeurs, Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui incarnaient un binôme de policiers, aussi différents que possible, hein, c'est on a l'habitude pour ces binômes, qui est relaté au présent en une succession de flashbacks, leur enquête en Louisiane en 1995. On peut rappeler que True Detective, c'est pas une série, c'est une anthologie, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle saison, une histoire entièrement nouvelle, qui se termine donc à la fin de la saison, et un nouveau casting. Celui de la saison 2 avait repris le pari de figures connues avec Colin Farrell et Rachel McAdams, mais un retour de bâton assez violent. La saison 2, je crois, ça a été presque unanimement jugé très faible, alors que la première a été jugée très belle. On attendait quand même cette saison 3, c'était la belle. Elle est avec Mahershala Ali et Stephen Dorff. Elle propose pas moins de 3 strates temporelles pour raconter l'enlèvement de 2 jeunes enfants. Alors, au moment des faits, on est en 1980, 10 ans plus tard et encore 25 ans plus tard, parce que l'enquête doit être rouverte de différentes façons. Le petit garçon, en 1980, a vite lui été retrouvé mort, mais la petite fille avait disparu, a été portée disparue, mais a refait surface, j'en dis pas beaucoup plus. Alors que nous parlons de cette série, on a pu voir 6 des 8 épisodes qui la composent.
Well, Detective Hayes, could you tell us your timeline of events?
November 7th, 1980. It was just a case when I caught it. I know it'd be my last.
2 kids, supposed to be home by 5:30, never arrived.
You almost had a clean night, man. The same. Anything you can tell me about Will?
He's quiet. I don't think he got noticed much.
I'm telling you, they didn't run off.
All you had to do was watch him.
Mind if we look around?
How you gonna wear that badge?
Got a little clip on me.
You look like you haven't slept in a couple days.
I never stop coming up with theories about that case.
My job.
There's no certainty.
Well, you don't remember, you don't know, you don't remember.
What?
Well, you don't remember.
Oh, sweetheart. Did you think you could just go on and never once have to look back?
You ever been someplace you couldn't leave? You couldn't stay? Both at the same time?
Things I've seen. Things I know. Wouldn't do anything but cause harm.
A lot of people around this are dead. A lot of people gone.
Most people I ever knew are gone.
Whatever you think you did or didn't do, you don't deserve to suffer.
This case is all I can think of. I want to know the whole story.
Ouais, 6 épisodes, hein, sur les 8, puisque en France, diffusé sur OCS en US plus 24, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est ainsi qu'on est à 3/4 de cette série. Mathilde Wagman, vous voulez bien commencer à nous parler de cette saison 3 de True Detective ?
Ouais, alors moi j'étais plutôt emballée, hein, par cette nouvelle saison, donc qui nous fait renouer avec l'amour de True Detective. Je trouve que ce qui est assez brillant dans la construction, c'est que les 3 temporalités que vous avez mentionnées permettent qu'il y ait une forme de superposition de mystère, de suspense. C'est-à-dire que au suspense basique, principal, de savoir qui est l'auteur de l'enlèvement des enfants, et du meurtre donc du petit garçon, se superpose d'une part le fait de savoir comment il est possible que cette petite fille ait donc visiblement survécu, et d'autre part, quelles sont les raisons pour lesquelles finalement l'enquête a, semble-t-il, par 2 fois échoué, puisqu'on comprend que 2 fois, en 1980 et en 1990, on n'a pas réussi à avoir le fin mot de l'affaire. Je trouve que cette construction-là est assez efficace et assez brillamment menée, c'est-à-dire qu'on ça tient à peu près très bien au fil des épisodes. Par ailleurs, il y a des thématiques souterraines qui, en fait, prennent presque le dessus, qui sont, il y en a 2 principales, à mon avis. La première, la question du trauma des ravages de la guerre du Vietnam, à travers le personnage de Mahershala Ali, notamment, qui est donc un vétéran, et puis d'autres personnages aussi, notamment un personnage très important, assez pivot, qui est celui d'un homme, l'un des suspects, en fait, qui est un homme indien dont on comprend que lui aussi, dont il est dit qu'il est un vétéran. Et puis deuxième thématique, celle du racisme auquel est confronté le détective à la fois de la part des et les personnages en général, à la fois de la part des habitants, à la fois de la part de sa hiérarchie dans la police, parce qu'on comprend que sans doute s'il n'a pas progressé, c'est parce qu'il est noir. Mmh. Deux thématiques qui au fond n'en sont qu'une seule, qui serait voilà l'histoire de la violence aux États-Unis, le fait que le pays est construit sur une histoire violente. Et ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant, et notamment ça se noue dans une scène d'assaut. Donc, sans en dire trop, l'un des suspects est victime d'un assaut de la part d'habitants du village qui pensent qu'il est coupable. Et c'est une scène que je trouve assez magistrale, qui évoque le western, enfin, qui est très réussie, à la fois du point de vue des thématiques et de la mise en scène. Donc voilà, à cela s'ajoute le fait que le duo Mahershala Ali et Stephen Dorff, je le trouve très intéressant. Non seulement Mahershala Ali, dont on savait que c'était un acteur voilà, que je trouve
donc,
assez...
Vu dans Moonlight,
voilà,
dans
vu
Green,
dans Moonlight et oscarisé pour Moonlight.
Comment s'appelle le nouveau film ?
Green Book.
Green Book, c'est
voilà,
pas Green,
Green
Light,
Book
oui.
Que j'ai pas vu.
Green Book.
Mais aussi, et peut-être même surtout Stephen Dorff, qui incarne un personnage très antipathique et peut-être encore plus intéressant que Mahershala Ali.
Très antipathique, vous trouvez ?
Oh bah disons que on peut pas dire qu'il est sympathique, il a un côté extrêmement bourru.
Il est extrêmement bienveillant
bien.
Ce garçon.
Ah moi j'ai cru que c'était vraiment le méchant de l'histoire pendant très 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 longtemps.
Ah mais vous savez pas,
très, très
il reste deux épisodes Lucille.
On
ne sait
rien. Mais c'est vrai que moi aussi
je trouve pas. Ah c'est mais je trouve très très bienveillant moi, c'est au contraire le seul qui fait une place à son collègue noir dans le on est en Arkansas donc en 80.
Oui, c'est vrai mais par plein d'autres aspects, il est un peu rude en tout cas,
il c'est bad cop et bad cop en même temps les.
Oui, c'est un peu ça.
Équipe.
Mais voilà, en tout cas, voilà. Globalement, je trouve que ça fonctionne.
Iris Bray, True Detective, saison 3.
C'est assez incroyable qu'une série comme ça puisse retomber sur ses pieds après vraiment une saison 2, mais catastrophique.
Dans le cas d'une anthologie, c'est plus envisageable.
Oui, mais alors là,
on est
vraiment exactement quand même dans les mêmes codes de la saison 1, donc on pourrait se dire qu'on pourrait se lasser avec ce duo de flics. Bon, alors là, on est dans l'Arkansas et pas dans la Louisiane, mais enfin, il y a encore une fois un enlèvement d'enfants, donc on est quand même vraiment dans les mêmes mécanismes que la saison 1. On a même un peu ce truc des petites poupées, vous doux, enfin vraiment,
oui,
là,
oui,
à ce moment-là, je me suis dit,
j'ai
un peu peur aussi.
Mais on n'est pas au bout. Hein.
Non, ça peut revenir, on ne
mais
sait
là,
pas comment ça va se
terminer. Mais là, trois strates temporelles, qui dit mieux ?
Ben, je trouve ça extrêmement beau, en fait, puisque dans cette troisième strate temporelle où les deux flics sont âgés, l'un d'eux, donc Wayne Hayes, perd la mémoire. Et en fait, je trouve qu'il y a tout un... Ça, je trouve ça brillant, en fait, de réfléchir à comment est-ce que, finalement, tous nos souvenirs ne sont pas construits et comment est-ce qu'on les déconstruit et comment est-ce qu'on arrive à la vérité après des années où notre mémoire n'a fait que construire des faux souvenirs. Donc, moi, c'est une idée que je trouve passionnante et d'avoir, justement, trois strates temporelles et de pouvoir de revenir dans ces strates les unes après les autres et de voir comment les choses se créent et se cristallisent, je trouve ça brillant. Et puis c'est aussi le principe d'une série qui dure longtemps, c'est-à-dire que nous-mêmes en tant que spectateurs, quels sont les souvenirs qu'on se crée du premier événement, comment est-ce qu'on au bout de 10 épisodes ou de 8 épisodes, comment est-ce que ces 8 heures nous ont affectés, ont transformé la manière dont on voyait les gens. Donc je trouve qu'il y a tout un discours là-dessus qui est assez émouvant. Et je crois que c'est le dernier épisode qu'on a vu où justement Wayne Hayes se voit dans le reflet d'un miroir et se voit plus jeune. Moi, il y a quelque chose là-dedans dans l'idée du fantôme qu'on était et du comment le trauma nous transforme et nous métamorphose et comment est-ce qu'on peut se revoir des années après à travers justement juste l'idée de pourquoi est-ce qu'on a été discriminé, qu'est-ce qu'on a traversé comme épreuve. Je trouve ça très fin, puisqu'en fait, c'est une personne qui l'interroge des années après, une jeune femme qui fait un documentaire sur l'histoire et qui donc le force à re-réfléchir à cette question d'être un homme noir aux États-Unis et de comment est-ce que, juste à travers cette perspective-là, toute l'histoire change. Et ça, je trouve ça très beau et très intelligent.
Alors, l'avantage d'être au Bel Air, c'est que les auditrices et auditeurs qui viennent nous voir constatent que je ne dis pas n'importe quoi quand je dis que Lucille Gaumont fait beaucoup de mimiques pendant que les autres parlent. On essaye toujours de les analyser, ces mimiques, et on va en avoir l'expression orale à présent, Lucille.
Ça va forcément être décevant, du coup.
Jamais avec vous.
Oui. Alors, bon, moi, j'aime assez la saison 3 de True Detective. En fait, je crois que le problème, c'est que la saison 2 m'a tellement déçue. Et m'a par ailleurs rétrospectivement fait voir la première saison que j'avais adorée, d'une manière un peu critique, que je vois beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette troisième saison. Par exemple, dans la superposition des temporalités, je trouve que ça vieillit plutôt bien, mais au début, j'ai eu un petit peu peur de ce que ça pouvait amener comme lourdeur dans l'articulation. Je suis pas du tout convaincue par la strate temporelle 2015, que je trouve vraiment beaucoup moins bien joué, parce qu'aussi il y a cette espèce de truc américain de faire vieillir artificiellement les acteurs. Donc Mahershala Ali se retrouve affublé d'une perruque, et puis bon, moi je trouve pas que c'est un acteur formidable. Ah, alors moi je déteste, non, vraiment je trouve ça très mauvais. Je n'y crois pas une seconde au personnage de Wayne.
En même temps,
Wayne,
vous aimez une Miracolo, donc.
Vieux. Alors, c'est vraiment pas juste ces débats. On est vraiment très... Donc, en l'occurrence, j'attends toujours la strate 80 et 90 avec impatience. Mais dès qu'on retombe dans le contemporain, ça me gêne un peu. Par ailleurs, tout ce côté... L'affaire, finalement, ça passe en second plan. D'ailleurs, dans la saison 1, moi, je me rappelle même plus de la résolution. Je me rappelle que des discussions entre Matthew McConaughey et...
C'était un peu fantastique, ai-je dit.
Voilà. Là, en l'occurrence, je trouve qu'on s'achemine un peu vers le même fonctionnement où tous les mécanismes classiques de l'enquête qui, moi, m'intéressent vraiment et que je trouve vraiment très bien mis en scène. Par ailleurs, toutes les scènes d'interrogatoire, les scènes de police, quoi, je les trouve vraiment super, de la même manière que je trouve l'assaut assez formidablement filmé. Voilà, le substrat un peu philosophico-mystique, les discussions entre à la fois les deux flics, le personnage principal et sa femme, sur le trauma collectif, trauma individuel, le fait que tous les personnages aient évolué pendant tellement d'années dans cette affaire, y compris leurs enfants, il y a une sorte de surenchère de cette espèce de trauma et de la réflexion un peu philosophique que ça peut provoquer chez le spectateur qui me lasse un peu, je la trouve un peu fumeuse, pour tout dire. Par exemple, le fait que ce personnage principal soit malade, en effet, et que la question du trou de mémoire se lie à la question de la folie, des apparitions, et donc du coup de la manière dont la folie peut en fait amener à une forme de vérité. Tout ça, j'avoue, je vois quelque chose de très artificiel là-dedans, et qui en plus n'est pas compensé par quelque chose qu'il y avait dans la saison 1, qui était l'articulation entre la folie des personnages et le milieu. Et ce sud des États-Unis qui est tellement matière à fantasme, là je trouve qu'on voit moins le lieu, ça c'est géographique, à part dans les premiers épisodes. Après on perd très vite les paysages, les plans larges sur l'Arkansas, alors que dans la première saison, en fait ça charriait tellement de références littéraires, de Faulkner à Pete Dexter, hein, toute cette littérature-là du sud des États-Unis, que ça donnait une vraie épaisseur, et là je trouve qu'on la perd. Et je suis un peu déçue de ce point de vue.
Alors je sais pas si ça donnait une vraie épaisseur dans la saison 1, ou est-ce que c'était un joli vernis, parce que moi aussi j'ai un regard critique a posteriori, j'ai essayé de revoir la saison 1 de True Detective, et j'ai arrêté parce que je retrouvais pas du tout ce qui m'avait énormément plu à l'époque, et je pense que justement la direction photo, le chef opérateur de la saison 1, n'était pas pour rien dans la création de l'ambiance. Là on n'est pas du tout sur les mêmes principes. Il y a une mise en scène assez simple, assez au cordeau comme ça, sur les dialogues, sur des situations, ça va très vite, il y a un sens du montage qui est quand même remarquable, et sur les trois temporalités, mais à l'intérieur même des années de 80, 90, 2015. Et c'est vrai que c'est une série, et c'est vraiment un compliment, qui m'a fait penser à The Staircase, ce long documentaire, enfin ce documentaire au long cours dans Jean-Xavier de l'Estrade dont nous avions parlé, qui reprenait, alors là pour le coup dans le temps réel, de différents rebondissements de l'affaire, cette même affaire d'un homme soupçonné d'avoir en gros tué sa femme, pour aller vite. Et je trouve qu'il y a je me dis que Staircase a été très très regardé aux États-Unis. Je suis sûr que Nick Pizzolatto a quand même ça, avait ça dans le coin de sa tête, parce que jouer ainsi la temporalité et du vieillissement, moi j'ai pas de problème avec l'année 2015 dans le film, et encore moins là où on en est au sixième épisode, maintenant qu'il a retrouvé son ancien coéquipier, est quelque chose que je trouve au contraire très très excitant, parce que jamais vu comme ça avant, en tout cas True Detective. Donc moi j'ai une grande impatience de la suite, mais avec quand même quelques petits soucis, on va dire, scénaristiques. Parce que si je commence à parler de la berline marron, là, on n'aura pas fini. Bon, berline marron, je laisse ce mot à celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Iris Bray,
Pour là où Lucille Como trouve justement que cette question du trauma est artificielle, moi au contraire je la trouve vraiment poétique. Je trouve que le maquillage qui pourrait bloquer de voir des acteurs qui sont grimés en vieux, ça me fait pas du tout cet effet là en fait. Je trouve que même là quand ils se revoient dans les derniers épisodes qu'on a vus, la rencontre à nouveau du binôme, je trouve ça extrêmement émouvant de voir ces deux hommes qui se retrouvent et qui finalement n'ont pas la même histoire alors qu'ils ont tout partagé ensemble, c'est-à-dire qu'on les voit ensemble dans cette voiture pendant des heures, parler pendant des heures, et pourtant on se rend compte qu'ils ont deux points de vue très différents. Et je trouve que cette idée en fait du duo, du couple, que ce soit entre les deux hommes mais le couple aussi que forment Wayne Hayes et sa femme Amelia, qu'est-ce que ça dit justement sur la manière dont les liens temporels se tissent et évoluent? Je trouve qu'il y a un regard justement sur qu'est-ce que c'est qu'un couple qui dure depuis 30 ans, qu'on voit rarement en fait au cinéma et dans les séries. Et je trouve que là, la temporalité, ces trois strates, mais aussi la temporalité d'une série, c'est-à-dire qu'on suit pendant 8 épisodes, permet d'avoir une connexion, je trouve, très très forte à ce couple, notamment de mari et femme.
En fait, le trauma, je le trouve vraiment très intéressant quand il est vraiment éclatant et que le film, enfin que la série assume le côté mélo. Il y a par exemple une scène que je trouve formidable entre donc la femme du flic qui est aussi prof et qui enquête de son côté et la mère des enfants. Donc là, ça se passe au début, donc dans les années 80, et où c'est d'une violence ce qui s'échange en assez peu de temps. Elle finit par la mettre à la porte et quand ça assume le glauque, la cruauté et la violence, je trouve ça vraiment, c'est une série qui réussit à faire ça, alors que c'est très très difficile à faire. Et d'ailleurs, ce personnage de mère, il est formidable, tout comme tous les personnages secondaires. Vous avez parlé de cet Indien. Je les trouve tous beaucoup plus intéressants que les personnages principaux.
Les
personnages principaux, ils se perdent un peu dans l'ambition, un peu mystico-philosophique, je ne sais pas trop comment appeler ça, de la série, alors que tous les personnages secondaires sont passionnants.
Mathilde Wagman.
Rejoins Lucille sur deux points. La partie 2015, je la trouve aussi un peu en dessous du reste. Et sur les personnages principaux, pour moi, la relation de couple entre le détective et sa femme est très peu intéressante. Et la redondance de ces scènes où ils se disputent, ils font l'amour, est extrêmement pénible.
Genre, prends-moi dans la cuisine, c'est vrai.
Il se passe vraiment quelque chose. Il y a un échange, ça raconte quelque chose dans le couple.
Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve sur la description du sud des États-Unis, en effet, c'était très fort la Louisiane dans la première saison. Il y avait quelque chose avec les décors, tout simplement. Enfin, ils filmaient le bayou et c'était assez impressionnant. Là, c'est assez différent. C'est vrai que les décors sont peut-être moins filmés avec moins de précision. Mais ça passe par les personnages. Et notamment par le personnage du père des enfants, qui est cet homme. C'est une famille ouvrière. C'est un homme plus ou moins alcoolique, et désespéré. Et voilà, ce sud des États-Unis, ces rednecks, cette misère est incarnée à travers ces personnages secondaires. Je trouve que ça compense la perte du point de vue du décor.
Un dernier mot, Iris Bray.
Je pense que quand même la question d'avoir un homme racisé et que ce soit vraiment la question centrale pour moi est extrêmement original et vraiment bien traité.
Mais d'autant que c'est amené de façon extrêmement fine.
On en a très peu parlé, mais c'est quand même vraiment très important.
Et du coup, quand ça surgit par moment, c'est extrêmement fort.
Et ça nous prend aux tripes.
Bon, oui.
Oui, mais il y a une scène dans la communauté noire que moi je trouve, on pourrait se la mettre en parallèle avec la scène de l'assaut, qui est vraiment extrêmement subtile de ce point de vue-là sur la question noire.
On a hâte de voir les deux derniers épisodes de True Detective saison 3, c'est sur OCS que ça passe dans notre beau pays.
Il y a de la drogue qui circule dans cet établissement, ce qui m'intéresse c'est de savoir qui gère ce trafic.
Vous voulez quand même pas que je vous balance des noms?
Tout de suite les mots de voyous.
Tu vas faire tout ce que je te dis. Sinon, tu vas vivre l'enfer ici.
Alors, ce n'est donc pas un coup de cœur ce soir, mais c'est mon cœur qui saigne. Et ça fait rire Lucille Como et Mathilde Wagman. Mon cœur saigne en regardant la saison 7 d'Engrenage. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement aimé cette série que je ne me résous pas à ce qu'elle ait à ce point perdu son intérêt. On lui reprochait bien sûr toujours son absence de régularité en termes de diffusion. Là où le Bureau des Légendes est exemplaire, puisqu'il nous donne une saison chaque année, on était quand même assez clément avec Engrenage. Parce que l'attente était normalement récompensée. Cette saison 7, elle arrive un peu plus de 13 ans après la saison 1. Donc voilà, vous avez fait le calcul, il a fallu toujours à peu près 2 ans pour livrer les nouvelles saisons. L'attente peut-être nous a amadoué, mais ce n'est pas le cas cette saison. On rappelle que la série Engrenage multiplie les points de vue et offre donc, dès ses débuts, une vision très documentée, très réaliste. On a beaucoup dit de la procédure pénale française, puisqu'on va voir des juges, des procureurs, des avocats et bien sûr des policiers. Ce sont les métiers des femmes et des hommes qu'on observe en train de mener l'enquête et l'instruction. Alors, on a eu des trafics en tout genre, on a eu la traite des prostituées, on a eu des affaires politiques, un serial killer, des activistes de l'ultra-gauche, des banlieues chaudes. Chaque saison a exploré, ce qui est tout à fait légitime, une facette, voire plus de la criminalité. Cette série, elle a été créée par Alexandra Claire et Guy-Patrick Saint-Dorichin. Engrenage a bénéficié durant les 6 premières saisons d'un très beau travail, mais en sens d'écriture, notamment sur les dialogues, par les 2 premiers cités, Alexandra Claire et Guy-Patrick Saint-Dorichin, et aussi par Virginie Braque et Anne Landois pour les interprètes principaux, récurrents, comme pour les figures d'ailleurs majeures de chaque saison. La production a judicieusement choisi des comédiens qu'on peut avoir bien repérés au théâtre, comme Caroline Proust, Thierry Godard, André Fleurot, Nicolas Briançon, Philippe Duclos. La liste est longue, Johan Leysen, Gilles Cohen, Anne Alvaro, Judith Chemla, Jean-Quentin Châtelain, Louis de Langsin. Bref, il y a beaucoup de talents devant la caméra qui ont joué dans Engrenage. Ça donne assez de tournis. Qualité d'écriture, donc plus qualité des interprètes, ça donne le cocktail. Et patatras, rien ne va plus dans la saison 7. Pourquoi ? Il y a quand même, hélas, qu'une seule explication, Iris Bray opine, la faiblesse de l'écriture, puisque cette saison 7 est écrite par une nouvelle équipe qui est dirigée par Marine Francou. Faiblesse scénaristique, parce qu'on a quand même une histoire inutilement complexe, mal négociée, partant des milieux de l'argent sale, des Chinois de Paris, enfin bon, en colportant quand même aussi un nombre de clichés assez ahurissants. Et puis, faiblesse des dialogues, parce qu'on a, même dans le très court extrait qu'on a entendu, on a des dialogues qui sont très souvent explicatifs, comme si les spectateurs avaient sans cesse besoin qu'on leur prenne la main pour leur expliquer. Vous êtes sûr d'avoir bien suivi ce qui se passe. Et donc, même avec d'excellents interprètes, ils n'en peuvent, mais dans des situations, des émotions qui sont vraiment caricaturales, ce qu'il advient des personnages, notamment de Laure Berthaud, la capitaine de police, jouée par Caroline Proust et son acolyte Thierry Godard. C'est quand même très difficile de jouer ça bien devant des situations pareilles. Et puis les dialogues dans ces bouches pourtant expertes alourdissent l'ensemble. C'est peut-être la saison de trop pour Engrenage, mais je veux pas que mon cœur continue à saigner. Donc j'espère, je rêve d'une reprise en main par les anciennes auteurs pour une ultime saison. La suite, ça nous permettra d'abord de nous consoler et puis de nous permettre de prendre congé de ces personnages qu'on a tant aimés. Vous opinez décidément, Iris Bray. Je vous remercie de votre soutien. Voilà, mon cœur saignait pour cette saison 7 d'Engrenage, diffusée sur Canal+ et sur Canal+ Série.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et la dernière série à notre sommaire ce soir, c'est Sex Education de Laurie Nunn, disponible sur Netflix. C'est une série qui semble assez clairement avoir pour cible les adolescents du monde entier. Mes filles pourraient en parler. Il nous a semblé quand même intéressant d'en débattre ici ce soir. L'action se déroule principalement dans un lycée de la campagne anglaise. A pour personnage principal Otis, 16 ans, qui a le malheur d'avoir une mère thérapeute en sexologie, qui considère son fils quand même un objet d'étude, donc inhibant très sérieusement le pauvre Otis. Donc il y a quand même d'autres personnages. Il y a Eric, le meilleur ami d'Otis, qui cherche lui à assumer pleinement son homosexualité. Il y a Adam, qui est brut, bête et fils du proviseur, ce qui n'arrange rien. Et puis la jolie Maeve, l'intello complexé par son origine sociale très défavorisée. Bref, une galaxie d'élèves et de profs.
I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it.
Oh, I wish my mom was a sex guru.
So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum?
Trust me. You don't.
No, I love you so bad.
This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain.
I love you so bad.
I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging.
The students at the school need your help, and we need their money. I'll deal with the business end of things, and you can do the therapy.
Therapy?
Yeah, sex therapy. Like your mum.
Ah, sex therapist. This could be awesome. We could be popular.
I might have a mild to moderate crush on me.
I'm addicted to wanking.
My pubes are out of control.
I wish I could be a normal kid with a normal dad, with a normal dick.
There for the best 2 years of our lives.
What kind of man do you want to be?
What kind of man do you want me to be, Dad?
You can't choose who you're attracted to. You can't engineer a relationship.
I don't believe in love.
You are who you are. Don't let anyone take that away from you.
I still think it's weird a teenage boy's a sex therapist.
Bon, les anglophones auront apprécié la crudité des propos. Il faut quand même... Puis moi, je me régale de cet accent, je dois dire. Il convient quand même, sans doute, pour commencer, Iris Bray, d'expliquer le titre, Sex Education.
Oui, puisque le jeune Otis comprend que finalement la sexualité, bah, ça commence par l'oralité, et donc il devient sex-thérapeute dans son lycée, et donc il a tout le monde qui se confie à lui pour lui expliquer en quoi c'est difficile d'entrer dans sa sexualité, et lui qui n'a aucune expérience, mais qui a le don de savoir écouter, va réussir finalement à mettre des mots sur les mots, et à révéler finalement ces jeunes personnes à leur propre corps et à leur propre désir. Je trouve que c'est une série extrêmement bien écrite, interprétée, fine, qui, en fait, le point de départ, c'est que finalement, les sexualités sont pas des choses innées, que le genre féminin, masculin, ne c'est pas inné non plus, ça se construit. Donc, qu'est-ce que c'est que être un jeune homme? Qu'est-ce que c'est que d'être viril? Qu'est-ce que c'est que de devoir performer au lit? Et tout ça est abordé de manière... intelligente et en même temps très drôle, avec voilà une vivacité dans les dialogues, dans les interprétations. Tout le monde est très attachant. Je trouve que ça va en fait assez loin, même si ça peut paraître un peu bubblegum, un peu genre un truc pour une série ado, mais en fait je trouve qu'il y a très peu de séries adultes qui vont assez loin, aussi loin en fait dans leurs propos autour de la sexualité et à l'entrée dans la sexualité. Et puis avec ce rapport entre la mère qui est vraiment thérapeute sexuelle et son fils qui est interprété par Gillian Anderson donc X-Files, qui pour moi voilà est assez fascinante. On la voit assez peu et montre comment justement la sexualité des mères peut être dévoratrice pour leurs enfants. Bon voilà, il y a plein de choses, c'est très référencé, c'est-à-dire que on a l'impression d'être sur un campus américain avec énormément de références à des comédies américaines de teenage voilà, de rom-com, etc. Mais on est quand même dans l'Angleterre avec ce ton très spécifique, cet humour. Et vraiment, c'est incisif. Ça me fait penser à The End of the Fucking World qu'on avait vu aussi sur Netflix l'année dernière. Et je trouve que ça va assez loin. J'aime beaucoup.
Lucille, comment ? Sex Education et vous ?
Oui, alors, bon, en effet, ce qui moi, en fait, m'intéresse le plus au final, c'est ce qu'on reconnaît, c'est les codes dont vous parliez, qui sont ceux de la série d'adolescents, avec ces scènes de couloir, de casier qu'on claque, de brutes qui harcèlent les plus faibles, les victimes dans les couloirs, etc. Là où je vous rejoins pas du tout, Iris, c'est sur la question sexuelle. Je la trouve justement extrêmement prudente, voire prude, cette série. Je trouve qu'elle recrée, enfin, elle fait mine d'apporter justement à la mécanique teenage movie du neuf, et au final elle recrée de la norme à une vitesse, enfin même à l'échelle d'un épisode, d'une manière assez effrayante même, je trouve, sur ce que ça dit de la sexualité. Je vais juste prendre un exemple. Dans le premier épisode, Otis, donc le héros, se réveille, il se retrouve confronté à nombreux amants de sa mère qui est beaucoup plus jeune qu'elle, bon, pas beaucoup plus jeune en fait, mais bon, on nous fait croire qu'il est beaucoup plus jeune, qui est assis en face de lui au petit déjeuner, et du coup Otis se met dans la situation de le juger et lui dit est-ce que t'as encore un problème avec Oedipe, enfin tu veux coucher avec ta mère, et lui il dit non pas du tout, c'est pas ça le problème, et elle dit mais Otis, enfin tu as une vision extrêmement limitée de la sexualité féminine, bien sûr que les hommes peuvent désirer des femmes plus âgées, donc on se dit ah oui, bon, il y a une sorte de réflexion, et en fait c'est rabattu immédiatement par le fait que le mec en question appelle en effet la fille, enfin la femme avec qui vient de passer la nuit, mum, maman. Donc je trouve ça hyper caractéristique de la série, c'est-à-dire qu'elle fait mine de nous apporter un discours un petit peu différent sur la sexualité, de sortir des cadres, des normes, mais au final à chaque fois tout est rabattu sur une question de, en gros, la santé sexuelle normale, normalisée, donc tous les élèves à qui Otis a affaire ont un problème qui est quand même globalement assez mineur et assez classique par ailleurs, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, et au final il les règle en prônant une sorte de sexualité, bon enfant, de santé. Enfin, vraiment, moi, j'y vois quelque chose sur la santé sexuelle. Et même lui, c'est un personnage intéressant. Il a 16 ans, il a a priori pas de sexualité. Et au final, pourquoi il a pas de sexualité? Parce qu'il a peur du sexe, parce qu'il a vu une sorte de scène, bon, que je vais pas révéler, mais une scène primitive, entre guillemets, comme la psychanalyse peut les analyser, qui est d'un primaire et d'un attendu. Vraiment, enfin, moi, j'étais assez consternée par cette scène-là. Après, j'ai passé un bon moment devant la série. Je la trouve pop, très bien joué en effet, ça circule bien comme dans ces séries types, mais vraiment sur la sexualité, je trouve ça très décevant.
Mathilde Wagman sur Sex Education.
Alors moi, c'est une série qui m'a plutôt emballée, même si je vous rejoins, Lucille, sur certains points, mais avec de l'ambivalence. D'abord, je voudrais souligner quand même l'originalité, malgré tout, dans le traitement de cette thématique et cet univers teen movie ou teen série. Voilà, on sent bien que les auteurs se sont imprégnés de tous ces films américains et de toutes ces séries américaines qui prennent pour décor le high school américain. Mais il y a quand même un truc étonnant et amusant, c'est que ça se passe en Angleterre. Dans un endroit complètement indéterminé, une espèce de campagne anglaise. Alors j'ai lu que ça avait été tourné au Pays de Galles, mais
c'est l'école d'Harry Potter, non?
Ouais, ça évoque un peu l'école d'Harry Potter, mais quand même on a des scènes sur des grands ponts rouillés qui évoquent aussi une espèce de passé industriel. Enfin, c'est quand même assez étonnant ce truc-là. La temporalité aussi est très indéterminée, c'est-à-dire que bon, ça se passe aujourd'hui, mais ils sont habillés un peu comme dans les années 80. Ils écoutent de la musique beaucoup des années 80, un peu des années 90, mais il y a quelque chose là-dedans que je trouve original et plutôt amusant. Voilà. Après, sur le traitement de la dimension, la thématique sexuelle, en fait, moi, ce que je trouve, ce qui se passe, au fond, cette thématique-là est un peu abandonnée au fil des épisodes, c'est-à-dire que les scènes de thérapie, que moi je trouve assez drôles, sont abandonnées au profit de quelque chose qui relève en effet de la comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qui nous tient au bout d'un moment, c'est est-ce que Otis et Maeve vont finir par réaliser qu'ils s'aiment dans quelque chose qui est en effet très normé, qui relève d'une chose déjà vu 100 fois, mais à laquelle, moi, je suis assez d'accord avec vous, Lucille, au fond, il n'y a pas grand-chose de subversif là-dedans, mais moi, j'y prends quand même beaucoup de plaisir, c'est-à-dire que de même que je suis capable de prendre du plaisir à regarder la plus mièvre des comédies romantiques, je prends du plaisir à regarder cette série, voilà, avec malgré tout quand même le regret qu'il n'y ait pas plus d'aspérité, parfois aussi en ce que ça nous prive de moments de comédie, c'est-à-dire que par exemple, le personnage de la mère envahissante est très drôle au départ, enfin voilà, on pense à, je ne sais pas, la scène dans Les Beaux Gosses où nous Emile Vovski trouve Vincent Lacoste en lui disant « Alors, tu viens de te masturber avec un grand sourire ». Enfin, voilà, il y a le même type un peu de relation, c'est la même. Mais elle finit par réaliser qu'elle est envahissante et voilà, s'excuser. Et tout ça nous fait perdre en drôlerie et en potentiel comique. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu raté et qui va pas assez loin de ce point de vue-là.
Alors peut-être que vous êtes quand même beaucoup trop âgé, pardon, hein, aussi jeune soyez-vous, pour voir cette série. Moi, j'ai eu quand même quelques discussions avec des adolescentes qui ont regardé ça avec beaucoup d'intermittents, mais en fait, il y a pas que la sexualité, mais c'est quand même, il y a des choses, il y a plein de choses qui sont abordées, plein de sujets. Alors, j'ai souvenir en effet d'un épisode notamment autour de l'IVG qui, je pense, je suis content que ça existe. Quand il y a des répliques qui fusent comme mais l'homosexualité c'est has-been, je trouve que ça fait du bien que ça arrive au plus grand nombre d'oreilles possible. Et c'est par petites touches. Alors il y a effectivement tout ce qui est l'enrobage, qui est cette comédie romantique adolescente avec toutes ces références. Mais je trouve qu'elle elle le met au goût du jour d'une façon assez fine, parce que c'est à la fois quand même beaucoup d'obscénité et en même temps beaucoup de délicatesse. Donc c'est le mélange qu'on attend de ce type de production, Iris Bray.
Oui, c'est intéressant que Lucille Comeau utilise le terme de santé publique, parce que oui, mais je trouve ça très bien, c'est-à-dire que dans une série, de pouvoir voir où est le clitoris, de pouvoir parler de masturbation féminine, de pouvoir parler d'IVG, en fait, ça n'existe pas.
Et du coup, on ne voit pas de clitoris, hein. Enfin, moi, je ne sais pas où est le clitoris en regardant
la série. C'est pendant le... je vais vous dire où il est, Lucille Comeau. C'est pendant le cours de biologie, où ils ont un diagramme et ils doivent mettre où se trouvent les lèvres, le clitoris, etc. L'entrée du vagin, la vulve, je pourrais continuer.
Ouais.
Mais je vais m'arrêter puisque finalement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la série a compris que finalement, face, en fait, les adolescents, où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations aujourd'hui sur la sexualité? Eh bien, c'est soit dans le porno, soit dans les séries.
Bah, c'est
les
deux choses. Que ce soit là, moi.
Ben, je trouve que c'est pas mal que ce soit là et que ça existe là, puisqu'il y a énormément de choses qui sont expliquées, peut-être un peu en mode santé publique. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Enfin, donc, peut-être que ça peut paraître aseptisé. Moi, il me semble que c'est clé dans une série ado aujourd'hui de pouvoir mettre des mots qui n'existent nulle part ailleurs. Et je pense que tout, il y a un discours, pour moi, qui est plus intéressant autour de la masculinité plutôt que, voilà. Mmh. Je trouve que c'est les personnages masculins et notamment cette amitié entre,
Eric et Otis.
Qu'on n'a jamais vu avant, c'est-à-dire qu'un personnage homosexuel qui a juste un ami et qui n'a pas d'ambiguïté sexuelle entre eux, et c'est vraiment une amitié forte entre deux garçons adolescents qui découvrent leur corps et leurs désirs, je trouve ça passionnant et fascinant.
On est d'accord sur beaucoup de choses ce soir, Iris Bray. Lucille, comme on veut, un dernier mot, elle a 20 secondes.
20 secondes, non mais moi j'ai une série toujours d'adolescence en tête, c'est Freaks and Geeks, qui est une vieille série de Judd Apatow, où il n'y a en effet pas cette question sexuelle qui est au devant de la scène, mais qui de fait est totalement comparable par les formes qu'elle met en place et qui réussit à dire quelque chose de l'adolescence, y compris de la sexualité adolescente, dans des moments de gêne, dans des silences, dans des rires gênés, dans le fait ne serait-ce que au moins ils sont pas tous propres et habillés comme dans des clips de petites nanas qui font de la pop des années 80. C'est des vrais adolescents, ils ont de l'acné, ils sont gênés, ils rigolent comme mais vraiment il se dit plus de choses sur la sexualité adolescente à mon avis dans cette série que dans Sex Education.
C'est 20 secondes ont duré une minute. Merci, Lucille Comeau. Sex Education, à voir sur Netflix. Et du coup, on va moins entendre Sarah Dion, parce qu'on va passer directement à la question du jeu de ce soir, parce que c'est l'heure du jeu de la dispute. Ce soir, on gagne des invitations pour le cycle Sacha Guitry à voir à la Cinémathèque de Toulouse du 19 février au 20 mars. Sarah, quelle est la question ?
La question de ce soir est: dans quel film de Sacha Guitry découvre-t-on le duo formé par Jean Poiret et Michel Serrault ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute, celle sur laquelle on peut réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre. Vous serez là, Lucille Comeau. Avec également Marie Sorbier et Philippe Chevillier, on parlera de Premier Amour de Samuel Beckett, interprété par Samy Frey, gardienne de et avec Fanny Cabon. The End of Reality de Richard Maxwell, mise en scène par Marie-Josée Malice. Et il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour nous, de Fabrice Gorgerat.